RMC, face aux grandes gueules.
C'est Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle en 2027, le président des Républicains. Bonjour monsieur Retailleau.
Bonjour à vous.
Monsieur Retailleau, soyez rassuré, ici on peut utiliser des expressions chrétiennes. Par exemple, on peut dire que la présidentielle est un chemin de croix. Ça vous choque qu'un animateur du service public ait repris une candidate dans un jeu parce qu'elle allait justement utiliser cette expression un chemin de croix?
Oh, rien ne me choque plus, simplement, il faut avoir une liberté d'expression et il y en a marre de ces tabous dans tous les sens. C'est une forme de bien-pensance, finalement. Vous savez, les Français en ont marre. Hein. Parce que quand on est Français, on veut s'exprimer comme on l'entend. Certains ont une foi, faut les respecter, d'autres l'ont pas. Et puis, on est imprégné de tout notre langage. Par exemple, quand vous parlez, par exemple, de l'Hôtel Dieu. C'est vrai, comment vous allez appeler l'Hôtel-Dieu? On a des milliers de communes qui commencent par Saint-Laurent, Saint-Martin, Saint-Hilaire. Très bien, mais c'est notre culture, c'est notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on va la renier? On va pas cracher dessus quand même.
Mais là, ça se passe à la télévision, en direct. Oui. C'est ça qui est étonnant.
Non, justement, pas en direct.
Pas en direct, oui, mais je veux dire sur le service public.
Oui, ça a été maintenu au montage.
Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la commission d'enquête sur le service public? Qu'est-ce qu'il faut faire du rapport sur la longue?
Il y a des choses. D'abord, heureusement qu'il était publié. Nos deux députés qui siégeaient dans la commission d'enquête ont voté pour la publication. Je les avais eus avant pour m'en assurer, parce que quand on fait une commission d'enquête, on peut être pour, on peut être contre. Mais je pense que la masse d'informations, on doit la mettre sur la table. Ensuite, chacun se positionne. Je suis en train de préparer, moi, le projet présidentiel pour notamment l'audiovisuel. Parce que dans l'audiovisuel, il y a plus que quand même le service public. Bon, si on s'en tient au service public, ça coûte trop cher. C'est plus possible, 4 milliards, c'est plus possible.
Donc il faut faire des économies.
On devra faire des économies. C'est impossible autrement.
Comment on fait des économies? En privatisant?
Comment on fait des économies? En fusionnant. Je ne suis pas pour une holding. Je pense qu'il faut fusionner pour qu'on puisse obtenir des gains, des économies d'échelle pour couvrir le territoire. Ça, c'est un premier point. Deux, il faut que... je suis pas pour la privatisation. Parce que je veux qu'il y ait un pôle de création qui encourage notamment un certain nombre de les documentaires, la création audiovisuelle, etc. Et moi, je veux quand même qu'il y ait ce pôle public dans notre audiovisuel. Simplement, je veux que ça soit quand même impartial.
Ah oui. Il y a un problème de neutralité dans le service public.
Bien sûr, évidemment. Donc il faut trouver le bon système.
C'est compliqué quand c'est un homme politique qui le dit ça, parce qu'on se dit finalement c'est un politique qui aimerait que le service public parle comme lui. Donc
je vais vous donner un exemple. Voilà. Je vais vous donner un exemple très concret. Ça date d'hier, quand la Société des journalistes remet en cause l'arrivée d'Eugénie Bastier sur l'heure de vérité, parce que grosso modo elle serait conservatrice ou je ne sais quoi. Et alors? La pluralité, ça doit exister partout. C'est de l'argent qui est payé par les Français. Donc moi, j'attends pas que ce soit que de droite. J'attends pas non plus que ce soit que de gauche, vous voyez. Il y a un juste équilibre. Donc il faudra faire des économies. Deux, l'impartialité. Et trois, il faut qu'il y ait des missions qui correspondent au service public que le privé ne fait pas. Je pense au divertissement, je pense à tous les territoires. Voilà, je pense qu'il y a une couverture territoriale qui est importante de l'information dans les territoires. Je pense à la jeunesse. Voilà, on doit pouvoir trouver dans le service public des choses qu'on ne trouve pas.
C'est-à-dire
que
vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a trop de jeux ou trop de divertissements sur les services publics.
Ça ressemble trop à TF1.
Mais donc alors, dans ce que vous dites, Monsieur Retailleau, vous vous rapprochez du député à l'oncle, puisque lui aussi, il veut développer les documentaires et il trouve que sur France 2, il y a beaucoup trop de jeux.
Je me rapproche de mes convictions.
Oui,
ce que je dis aujourd'hui. Non, mais... Soyons clairs, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit bien avant. Donc voilà. Non, mais il y a des choses qui sont positives, d'autres qui ne le sont pas, ce qui est totalement normal. Quand vous mettez sur la table 70 propositions, ça serait quand même bien rare que vous approuviez les 70 propositions. Bon, il a sûrement eu aussi un parti pris, mais c'est normal. Je suis parlementaire depuis des années. Les commissions d'enquête, je les connais bien. Citez-moi une commission d'enquête finalement les convictions du rapporteur ou du président
vous disiez,
ne transparaissent pas.
Ça va faire partie du projet présidentiel. Il sera dévoilé quand, le projet présidentiel de Bruno Retailleau, alors?
J'avance avant l'été. J'avance, vous savez, j'ai présenté...
Combien de propositions?
Sur l'ensemble, oui. Je peux pas calculer comme cela, mais aujourd'hui, on a 50 groupes de travail qui mélangent des élus, des professionnels, sur des thématiques. J'ai sorti d'ailleurs sur le travail, sur produire plus, produire en France plutôt qu'ailleurs. J'ai sorti la semaine dernière sur la famille. Demain, je sors tout près d'une centrale nucléaire mes propositions sur l'électricité, la décarbonation, etc., etc. Donc quasiment toutes les semaines, tous les 15 jours, je sors des propositions.
Donc vous, vous êtes prêt, un peu comme Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit dimanche soir, il dit « moi je suis candidat, il y a une équipe, un programme, un candidat ». Chez vous, c'est la même chose, alors qu'ailleurs, c'est carré ?
C'est assez carré. C'est assez carré, mais contrairement à Jean-Luc Mélenchon, que j'ai fait voter nos adhérents, vous voyez. J'ai fait voter, voilà, j'ai eu 74%, et ils avaient le choix entre une primaire interne, une primaire un peu plus ouverte, ou me désigner comme le candidat naturel.
Oui, mais pardon, bah, j'entends pourtant des Xavier Bertrand dire, moi je suis candidat, Laurent Wauquiez qui a du mal à cacher ses ambitions, ou d'autres à droite, qu'est-ce que c'est vraiment carré ?
Eh ben maintenant c'est carré, parce qu'il y a la démocratie. C'est le propre quand on est attaché à la démocratie.
Il n'y a qu'un seul candidat LR, c'est vous.
On a, bien sûr, ça y est, moi je suis légitimé. D'ailleurs, vous verrez que depuis qu'il y a eu cette élection, c'est un peu meso voce quand même, voilà. Et en plus, tout le monde pouvait se présenter. Mais très franchement, ce que je veux dire à vos auditeurs, aux téléspectateurs, c'est que 2027, ça ne sera pas n'importe quelle élection. Moi, je considère que c'est l'élection de la dernière chance.
La dernière chance de quoi ?
La dernière chance, parce qu'on est au bord du précipice. On arrive à un moment.
Dramatisation totale.
Non, je vais vous
expliquer. Faut jouer un peu sur la dramatisation.
On arrive. Dramatisation quand même sur Otaïo. À chaque fois, on leur fait le coup. C'est moi ou le fascisme. Donc.
C'est pas ce que je veux vous dire. Simplement, le monde, il est dangereux. Jamais il était aussi dangereux. Depuis 5 siècles, c'est l'Occident qui dirigeait l'histoire du monde. C'est plus le cas. Depuis des années, c'était les Américains qui étaient notre garantie en termes militaires, en termes de commerce, etc. C'est plus le cas. Au contraire, ça devient un rival. Et c'est à ce moment où le monde est le plus menaçant que nous, on est très faible. On a 3500 milliards d'euros de dettes. On pourrait payer demain, en 2030, 120 milliards seulement pour rembourser les intérêts de la dette. Est-ce que vous savez ce que rapporte l'impôt sur le revenu ? Un peu plus de 90 milliards. Ça voudrait dire qu'il est possible que dans 3-4 ans, on paye plus pour les intérêts de la dette que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Mais je me souviens de Jacqueline Moreau au moment des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils font du pognon ? Mais le pognon, on va le mettre dans des trucs qui sont improductifs. La dette, elle est détenue par des mains étrangères en majorité. Donc on va engraisser, les Français vont engraisser. Voilà, ces gens
qui... Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut renationaliser la dette ?
Non, je dis pas ça parce que je pense que c'est pas la question. Ce que je dis, c'est que il faudra que l'État se serre la ceinture, faire des économies.
D'accord.
Parce qu'il y a plein d'économies à faire.
Oui, économie sociale. Tout le monde le dit.
Le dire pour être élu. Hein,
mais quelle économie concrète, par exemple, si vous êtes élu président de la République, la première économie que vous faites ?
Moi, les économies, je les ferai d'abord pour décourager l'assistanat. Les gens que je vois, vous savez, j'ai commencé depuis des mois et des mois. Un tour de France et j'aime beaucoup le contact avec les gens. Moi, vous savez, je suis un rural, je vis dans une commune de 1600 habitants, j'ai pas de vie mondaine. Mes amis, moi, ce sont des gens, mes voisins qui sont agriculteurs, etc. sont des gens ordinaires. Mais quand je vois des gens, ce qu'ils me disent, écoute Bruno, on bosse très très dur, on gagne pas bien notre vie, on n'arrive plus à boucler les fins de mois, et on a un voisin, on a quelqu'un qu'on connaît, lui, il vit au crochet de la société, il a pas besoin de se payer des pleins d'essence actuellement, il a pas besoin de faire, garder ses enfants, et il gagne quasiment autant que nous. Donc ce que je ferais, c'est que je plafonnerai à 70% du SMIC la totalité des prestations sociales. Les prestations sociales, il y en a une quinzaine qui viennent de l'État. Il y en a d'autres qui viennent... Non, je fusionne pas. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a d'autres qui viennent, par exemple, de la caisse d'allocation familiale, le RSA, par exemple. Et d'autres qui viennent des collectivités. Je fais un compte social unique. Chaque foyer... Il y a un foyer fiscal. Vous avez un compte fiscal. Eh bien, il y aura aussi un compte social unique. J'y mets... au mois par mois, l'ensemble des prestations. Et les prestations, je les écrète. Je les plafonne à 70% du SMIC pour m'assurer qu'il y ait vraiment un écart entre le revenu du travail et de la solidarité. Et ça, ce sont des milliards. Je fais la réforme de l'assurance chômage. Parce que certains, on appelle ça la permittance. C'est-à-dire que on part un peu au chômage, c'est payé par la société.
Est-ce que vous réduisez le nombre de fonctionnaires ?
Je réduirai
aussi... De combien ?
je réduirai d'environ 250 000 le nombre de fonctionnaires. D'accord. Parce qu'on est à 6 millions de fonctionnaires.
Mais c'est-à-dire vous.
Et que, pardon,
vous,
on est à 6 millions de fonctionnaires.
Vous ne renouvelez pas les départs à la retraite, c'est ça, en
c'est
fait?
C'est ça. On a une chance, c'est que la pyramide des âges. D'accord. Par exemple, en décembre dernier, il y a à peu près 145 000 fonctionnaires qui sont partis à la retraite. Moi, je pense que, et je veux d'abord toucher ce qu'on appelle l'administration administrante. Il y a besoin de policiers, il y a besoin d'infirmières, de gendarmes. Mais il y a trop de gens qui contrôlent. Voilà. Et si on veut moins de normes, ben aussi, il faut moins de contrôleurs, voyez. Il y a une évidence.
Je
c'est du bon sens.
Interrogé ce matin sur le rôle de la Banque de France. Peut-être que ça fait partie de ceux qu'il faudrait plus dégraisser que les autres.
Ça, c'est pas là que la Banque de France. Il y a une Banque centrale européenne.
La Banque de France, c'est un exemple, mais je peux vous citer une liste d'offices. Moment donné, il y a aussi des choses qui se passent dans l'administration. Alors certes, les contrôleurs et tout ça, mais il y a quand même des pans entiers de l'administration. On ne voit pas à quoi ils servent. Quoi.
Il y a 2000 opérateurs, il y a 2000 agences. Le Sénat a fait une commission d'enquête. Mmh. Et dans quelques semaines, on va voter un texte justement pour supprimer des agences. Ça, c'est 80 milliards d'euros. Eh bien, il y a quelques milliards à retirer aussi de ces suppressions d'agences. Ça a démembré l'État. Du coup, c'est l'État dans l'État. Ça a démembré l'État. Et moi, je veux un État fort.
Oui,
je veux pas un État qui soit dispersé.
Il y a déjà eu une diminution des fonctionnaires et pourtant, ça n'a pas fonctionné.
Il y a eu 144 000. Il y a eu 144 000 sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Mais aujourd'hui, vous avez 6 millions. On a à peu près 1 million de plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans.
Notamment dans les
Est-ce que les services publics, notamment dans les collectivités, est-ce que les services publics se sont améliorés? Non. On a choisi une fonction publique nombreuse et paupérisée. Moi, ce que je veux, par exemple, dans mon projet, je pense que l'école, c'est capital. L'école, c'est capital parce que on prépare la France de demain. Et aujourd'hui, on n'est pas bon sur les performances. Les classements PISA en français, on est 26e rang. En maths et en français, on est à 29e rang. Mais le pire, on devrait interdire l'expression école républicaine. Le pire aujourd'hui, c'est que l'école française n'est plus républicaine. Pourquoi ? Parce que c'est en France que le lien entre la réussite des enfants, des élèves et la position sociale, le revenu des parents, ce lien, il est le plus fort. En clair, quand vous avez des parents qui ont un certain niveau de vie, un niveau socio-culturel, vous allez réussir. Et ça, moi, ce que je veux faire, c'est refaire
donc
des
maîtres. Donc, c'est la reproduction sociale. Et l'ascenseur social n'existe plus.
Ça n'existe plus. C'est devenu, malheureusement, l'école française est devenue une machine à reproduire les inégalités. Et je veux, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Je veux qu'on reforme de bons maîtres. Parce que être professeur des écoles aujourd'hui, c'est 1000 fois plus difficile que les maîtres que nous, on a connus. Parce que les gamins sont plus difficiles. Parce que les familles, parfois, ont démissionné. Parce qu'il y a les écrans, etc. Oui, bien sûr.
Vous les payez mieux, les profs?
Exactement. Mais je pense qu'il faudra les former, pas les former en master à l'université, mais dans des instituts supérieurs de professorat.
L'IUFM existait avant?
Oui, mais certainement pas sur l'IFM.
Oui, mais l'IUFM.
Et on les formera aussi par la voie professionnelle, par l'alternance. Et on les payera mieux. Parce que ça n'est pas normal qu'aujourd'hui, ils ont, par rapport à il y a 30 ans, ils ont perdu énormément en termes de pouvoir d'achat.
Donc on a besoin de moins de profs.
Exactement. Il y aura 1 700 000 élèves de moins en 2035. Et donc, on va gagner de la ressource. Et bien, cette ressource, il faudra sans doute moins de profs, mais il faudra que...
On pourra mieux payer les profs.
C'est fondamental. Si, franchement, et on cassera ce que l'éducation nationale fait en termes de ressources humaines, parce que franchement, le bon sens n'est pas français dans ce cas-là. On marche sur la tête. C'est-à-dire que à l'éducation nationale, on met dans les classes les plus compliquées, les plus difficiles,
les plus jeunes,
les élèves les plus jeunes et les plus inexpérimentés. Et les plus expérimentés, on les met dans des classes les plus faciles.
Il faut donner envie d'aller dans des classes difficiles aussi, parce que...
Alors, pour aller dans les classes les plus difficiles,
tout le monde les paye la même
il faudra
façon.
Des primes. Il faudra des primes. Oui. Exactement. Moi, je veux une école républicaine, méritocratique. Le mérite, que ce soit pour le professeur ou que ce soit pour l'élève.
Est-ce que vous voulez une école plus exigeante sur le niveau des acquis est-ce que, par exemple, sur l'orthographe, sur les connaissances
90%
scientifiques, demander plus de choses? Par exemple, le bac, aujourd'hui, on a du mal à savoir précisément à quoi ça sert. Puisque
ça ne veut
tout
plus rien
là,
dire.
Et d'ailleurs, les élèves ont bien compris que l'enjeu, c'est Parcoursup et ce n'est plus le bac. Est-ce que tout ça, il faut remettre les choses un peu dans l'ordre?
Exactement. Sur les savoirs fondamentaux, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faudra sans doute un examen de passage entre le CM2 et la 6e. Et parfois faire du redoublement. Quand un élève, quand on traîne, aujourd'hui ce sont les parents grosso modo qui ont la main en disant bah, moi je veux pas de redoublement. Mais quand vous traînez un gamin du CP jusqu'en CM2 et ensuite au collège qui n'arrive pas à maîtriser le français, l'écriture, c'est fichu. Donc on a intérêt à faire en sorte que il faudra sans doute aussi des cours de soutien, ça c'est important, mais l'école c'est vraiment capital pour notre avenir. Il faudra abandonner le collège unique. On traite les enfants comme des produits industriels, comme si c'était les mêmes au même âge. Ben non, il y a des enfants, d'abord ils peuvent avoir eu dans leur propre parcours personnel des pépins. Ça existe ça, des accidents, il faut être capable de les relever. Et donc il ne peut pas y avoir un collège unique. Moi je pense qu'il peut y avoir notamment des gamins qui puissent choisir l'apprentissage dès 14 ans. Ça sert à quoi de les vouloir les faire durer jusqu'au bac si ce n'est pas leur vocation?
Donc vous arrêtez, l'intelligence de la main. L'école obligatoire jusqu'à 16 ans ou pas?
Non, mais non. Je parle pas d'école obligatoire.
Non, je sais bien.
À 14 ans, on peut avoir une filière.
On sortait complètement de l'école à 14 ans.
Non, à 14 ans, ce que je dis, c'est que c'est le préapprentissage. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est toujours
et
encadré, vous voyez.
Un parcours d'excellence quand même.
Bruno Retailleau, quand il a
regardez les apprentis, franchement.
Non, moi, je suis totalement. Alors, attends.
Les apprentis, moi, quand j'étais président de région, je m'étais donné cette priorité. J'en avais marre de voir des gamins et j'en avais marre qu'en France, on ait déclassé les métiers manuels.
C'est ça le problème.
C'est énorme. Vous vous rendez compte, être menuisier, plombier, etc. Et j'ai encouragé une association, je voudrais leur faire de la pub aujourd'hui. L'outil en main, c'est en général des compagnons, des ouvriers, mais souvent des artisans. Ils ont été maçons, plombiers, électriciens. Et le mercredi, ils passent du temps bénévolement pour que dans des ateliers, des jeunes gamins quoi, qui ont 8, 9 ou 10 ans, et ils deviennent pendant une après-midi, ben on leur apprend à faire un circuit électrique, ensuite la plomberie, ensuite de la plâtrerie.
C'est de la découverte.
C'est génial. Alors que souvent l'éducation nationale, il n'y avait de salut que en la série S, la série A. Et là encore, je pense que ce qu'il faut faire, tout ce qui est lycée professionnel, il faut le retirer de l'éducation nationale et le confier aux régions, au terrain où on connaît bien les besoins, notamment économiques, et aussi avec une gouvernance région et entreprise. Voilà.
Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, reste avec nous dans les grandes gueules. Question de Sandrine Pégan, Zora Habitant, Didier Giraud.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Il est 11h25, vous êtes sur RMC, RMC Story, les candidats à l'élection présidentielle à la tête des Républicains. C'est Bruno Retailleau qui est avec nous aujourd'hui dans le Face au GG. Les carburants, est-ce que on surtaxe Total? Mais si on surtaxe Total, dis-moi, j'arrête les ristournes. Vous avez choisi votre camp, le camp Total ou le camp Le Cornu?
Je veux pas choisir entre Total et Le Cornu. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on a marre des taxes et des surtaxes. Et
donc vous avez choisi.
On devrait se dire, quand on est français, on a une grande entreprise. Et Total, c'est un bouc émissaire. On a essayé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a une mémoire très courte, il y a seulement 3 ans. On avait fait deux types de fiscalité, l'une qu'on avait appelée la CRIM, une contribution, etc. C'était sur les producteurs d'électricité, et une autre sur le pétrole. Et ça avait beaucoup déçu. Ça devait rapporter 12 ou 13 milliards, et ça avait rapporté quelques centaines de millions, et ça n'avait rien arrangé du tout. C'est déjà, moi je trouve positif que Total plafonne. Le problème, mais les Français le savent, c'est que par rapport à ce qu'il fait dans d'autres pays européens où l'État baisse notamment des taxes, où essaie d'encourager justement le portefeuille de ses nationaux, nous on a plus, il n'y a plus d'argent. Donc aujourd'hui, quand je vois par exemple le Rassemblement National, qui voudrait des milliards et des milliards, ça serait entre 15 et 20 milliards. Mais c'est de la dette. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui, on fasse payer par nos enfants, nos petits-enfants, un truc pour faire nos plaintes aujourd'hui. Mais on marche là encore. Où est le bon sens? Et c'est plus possible. Moi, j'ai fait une proposition. Elle est assez simple parce que personne ne le connaît d'ailleurs. La Cour des comptes avait critiqué en 11 ans, elle a critiqué 4 fois le système. Ça s'appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est une sorte de surtaxe.
Pour financer la transition écologique.
Bah oui, au moins, les augmentations à milliards qui sont prévues cette année, on les arrête. Et en plus, ça va pas dans la poche de l'État. Donc, ça n'est pas de l'argent.
Mais est-ce que c'est
que je retire de l'État.
Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter ce qui nous permettra peut-être demain d'être moins dépendant du pétrole?
Mais c'est terrible. Demain, je vais justement faire mes propositions sur l'électricité. Et je vais mettre sur la table un projet qui va permettre aux Françaises et aux Français, à partir de 2027, quand je serai élu président de la République, d'économiser l'équivalent de 2 mois de facture d'électricité. Je vais vous citer 1 ou 2 exemples. Premier exemple, sur les certificats d'énergie. Je sors l'électricité, puisqu'aujourd'hui, l'État veut que on encourage l'électrification des usages et en même temps, on taxe l'électricité. Stupide. Deuxième exemple, on a les fameux DPE, les diagnostics de performance énergétique, vous savez, la problématique des passoires. Et comme par hasard, on se rend compte que, parce qu'il y a des décennies, on a voulu taper l'électricité, avantager le gaz, qu'il y a un taux de conversion où on désavantage les logements qui se chauffent à l'électricité, qui eux sont passoires thermiques, et que des logements qui sont chauffés avec de l'énergie fossile, eux, ils sont vertueux. Mais là encore, c'est complètement dingue. Donc là, par exemple, ça permettrait de restituer sur le marché 1,5 million de logements, alors que les Français sont mal logés. Donc, vous voyez, on a l'électricité depuis 2009, on a doublé le prix de l'électricité. Donc les carburants, la réponse, c'est pas seulement les carburants, c'est sur l'énergie. Et là, on peut apporter, et demain, d'accord, j'apporterai des réponses concrètes. Je vous en ai donné 2 exemples. Pareil, il faut arrêter de subventionner les énergies renouvelables. Parce qu'elles sont matures. C'est des milliards et des milliards. On ne se rend pas compte. On a la chance d'avoir le nucléaire.
Laissons le marché faire, pas besoin de subventionner.
Exactement, exactement. Et si on économise des milliards, croyez-moi, ça se paraîtra sur la facture très concrètement avec 2 mois d'économie par an. La facture d'électricité.
L'un des enjeux, c'est aussi la sécurité des Français. On a appris, grâce à nos confrères d'RTL, qu'il y a un projet au sein du ministère de la Justice de réduction de peine pour essayer de lutter contre la surpopulation en prison. C'est-à-dire, on va essayer de vider les prisons, alors en réduisant des peines, en expulsant peut-être davantage les détenus étrangers. L'idée, c'est qu'il y ait de moins en moins de monde en prison, puisqu'on a ce problème qui est pas nouveau de surpopulation carcérale. Est-ce que ça va dans le bon sens ou au contraire, c'est pas un mauvais signe qu'on va envoyer?
Ça ne va pas dans le bon sens. Un, faut construire des prisons. Moi, je suis aussi élu local.
Alors, pardon, mais tous les candidats à la présidentielle disent ça, on dit ça. Oui. Et jamais les objectifs.
Jamais il y en a un qui a proposé de la faire chez
ne
lui.
Ne sont atteints.
Eh bien,
notamment ceux des
Bernardiniers. Ça fait plus de 10 ans que je propose qu'en Vendée, à La Roche-sur-Yon, je suis concret, hein, ou à Fontenay-le-Comte, on construise une prison.
Et les habitants sont d'accord? Les maires sont d'accord?
On s'est accordé, il n'y a pas eu de souci. Et 10 ans après, on n'a toujours pas la prison. Les 2 prisons de Fontenay-le-Comte, c'est des petites prisons, et de La Roche-sur-Yon, sont parmi les plus encombrées. Il y a une surpopulation énorme. Les détenus ont fait des conneries, mais c'est quand même des êtres humains. On va pas mettre, voilà, on peut pas les mettre plusieurs par cellule. C'est ce qui se passe en Vendée.
Et surtout, Monsieur Retailleau, dans l'indignité la plus totale.
C'est ce que absolument.
Justement, donc vous avez
la
raison
dignité,
de dire
ça n'est pas
et voilà.
Pour autant qu'ils soient prisonniers, pourtant je suis pas connu pour être laxiste, hein, mais la fermeté c'est aussi de l'humanité.
Voilà.
Bon, quand on
parce
fait une bêtise, on va en prison. Mais ce que je veux dire, c'est que non, ça va pas dans le bon sens du tout. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'il faut faire nous. L'exemple des Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des courtes peines. Moi, j'ai été stupéfait quand j'étais ministre de l'Intérieur de ces gamins de 14, de 15 ans, de 16 ans, des mineurs qui pouvaient tuer. À chaque fois, je demandais aux gendarmes, aux policiers, de me donner les antécédents judiciaires. Et à chaque fois, c'était pas 10 antécédents judiciaires. C'était souvent plus de 30. Ça veut dire qu'en France, on refuse de les punir. Bien, moi, ce que je propose, c'est une autre politique pénale. Pour les mineurs, mais aussi pour les autres. C'est ce qu'a fait la Hollande, les Pays-Bas. C'est, au premier délit grave, des courtes peines de prison. La Hollande a fait ça. Ce qui fait qu'ils ont découragé, ça a marché. Au départ, ils ont rempli les prisons. Et ensuite, les prisons se sont vidées à tel point que la Belgique a loué des places de prison aux Pays-Bas. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sous Emmanuel Macron, il y avait Madame Belloubet avait fait voter un texte où, grosso modo, pour des peines de moins d'un mois, de moins de 6 mois, même d'ailleurs moins d'un an, quand vous êtes condamné à la prison, vous faites zéro prison. Zéro prison. Donc cette politique de fermeté, ça peut aller justement avec le fait qu'on puisse libérer à terme les prisons parce que on découragera des délinquants quand ils auront fait une courte peine de prison, ils réfléchiront à deux fois.
Okay, mais alors, monsieur Retailleau, vous savez pertinemment que
d'ores et déjà
d'ores et déjà, vous le savez, que les mineurs sont incarcérés, sont en détention provisoire à partir du moment où ils commettent des délits ou des crimes. Quand bien même, ils ne sont pas condamnés. Taillot, vous n'allez pas me dire ça, moi, j'y suis tous les jours dans les prétoires. Mais non, pas très peu, bien sûr que non.
Parce que
vous parlez de délits graves. Délits graves, pour vous, ça veut dire quoi? Moi, en tout cas, je vous le dis, de ce que je constate tout le temps, en tant qu'avocat pénaliste, c'est que justement, les mineurs, quand ils commettent des délits, comme vous dites, graves ou même des crimes, ils sont incarcérés, ils sont en détention provisoire et ils sont dans des quartiers mineurs de prison. Donc ça existe déjà.
Quand je disais tout à l'heure, regardez le cas du jeune Elias, mais je pourrais vous en citer d'autres. Quand je dis 30 antécédents judiciaires, bien sûr, c'est avant de tuer.
Oui, mais 30 antécédents.
Avant qu'il y ait du sang.
Mais attendez,
le problème, c'est qu'aujourd'hui.
Ça peut être un petit vol à l'étalage,
oui, mais
vous voyez.
C'est pas ça, peut-être.
Mais voilà.
C'est le premier acte
aujourd'hui. Donc, à partir du moment où t'as volé un bonbon, parce que ça nous est tous arrivé, hein, d'accord, quand on était jeunes. Bah. Donc, alors, il faudrait être incarcéré pendant un mois. C'est ça la sanction. Mais parce que quand vous dites, monsieur Retailleau, quand vous dites que le casier judiciaire.
Vous ne l'avez pas écouté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, la politique pénale des mineurs, c'est criminel. Pourquoi? Parce qu'ils volent un œuf. Ils volent un bœuf. On les punit pas. Mais ensuite, ils volent avec violence. On attend qu'il y ait du sang pour les punir. Alors, je suis d'accord. Quand il y a du sang, quand il y a un crime, ils vont en prison. Mais heureusement.
Donc,
moi, ce que
vous,
je veux,
un adolescent qui vole un œuf doit être emprisonné.
Dès le premier délit grave.
Mais vous savez que la prison, écoutez-moi. Ça fabrique de la récidive.
Écoutez-moi.
Là, il faut tendre la main à un
ma
mineur.
Proposition. En tout cas,
attendez que monsieur Retailleau finisse.
Votre système ne marche pas.
Mais oui.
Votre système ne marche. Vous savez pourquoi, d'ailleurs? Les narcotrafiquants utilisent aujourd'hui des jeunes pour tuer.
Ah oui, ça oui.
De 14, de 15 ans. Ils les utilisent parce que
ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Darmanin a créé aussi.
Moi, je vous dis pas.
Pardonnez-moi, M. Retailleau. M. Darmanin a créé cette nouvelle qualification juridique pour que justement l'instrumentalisation des mineurs par les majeurs pour commettre des faits soit aussi maintenant une circonstance aggravante.
Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est que quand un mineur. Non, c'est pas pour voler un bonbon, mais quand il y a un premier délit grave, alors. C'est une courte peine de prison dans des prisons adaptées. On va pas les mélanger avec des narcotrafiquants, avec des terroristes.
De toute façon, ils ont déjà le carton.
On enchaîne.
Didier Giraud. Moi, je vous écoute depuis longtemps. Depuis que vous êtes là, le projet est sympathique. Bien. Par contre, il y a un truc qui me gêne. C'est comment on gère l'embouteillage là, à l'arrivée là. Parce que vous dites aujourd'hui, je suis le candidat des LR. Sauf qu'il y a tous ceux qui pourront pas, comme vous l'êtes. Être candidat des LR officiels, qui vont monter leur micro-parti et qui font que demain matin, il y aura 25 candidats sur toute la droite. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que vous êtes en train de créer une machine à perdre à vous tous là? Et au fait que la droite, on va dire, dite
la droite est le centre, on va dire.
Ouais, mais ce que j'appellerais la droite républicaine, elle ne sera pas au deuxième tour.
Je serai au deuxième tour.
Ah oui, bah, d'accord, mais ça c'est bien.
Jusqu'au deuxième tour.
Je vais vous expliquer.
Dans notre famille politique, je pense que ça y est, le débat est clos. Je suis le candidat naturel et légitime de LR. Ensuite, il y a le bloc central. Il y a Édouard Philippe et il y a Gabriel Attal. Aujourd'hui, les Français se sont pas projetés en 2027. Pas pour l'instant. On est d'accord. Ils sont pas obsédés comme nous par l'élection présidentielle. Ils ont raison. Mais ça va venir. Par contre, les Français, ils ont tranché sur le bilan actuel d'Emmanuel Macron. 8 à 9 Français sur 10 disent que c'est un échec. Eh bien, expliquez-moi, je ne vois pas ces 8 ou 9 Français. Attendez, j'explique. Expliquez-moi comment ces Français, à un moment donné, ne vont pas se réveiller pour dire, mais attendez, ils ont été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et donc, le bilan d'Emmanuel Macron, ils le porteront sur leurs épaules. Moi, non.
J'ai été
ministre de cohabitation, vous voyez. Écoutez, je me suis opposé sur l'Algérie, je me suis opposé sur la Corse, je me suis opposé sur l'immigration. C'était connu de tout le monde. Si je suis rentré au gouvernement, c'est pas pour les beaux yeux d'Emmanuel Macron, c'est pour la France. Parce que je ne voulais pas donner le gouvernement de la France à Mme Castex et à cette gauche mélenchonisée. Et si j'en suis sorti, c'est quand je me suis aperçu que dans mon dos, le Premier ministre, sur les retraites et plein d'autres choses, était en train de négocier avec le premier secrétaire du Parti Socialiste. Je m'en suis tiré.
Donc la droite et l'air. Le saucissonnage de la droite, ça ne sera pas un problème.
La droite et l'air.
C'est pas ce que je vous dis. Mais moi, ce que je suis en train d'essayer de monter, c'est un projet sur la prospérité où le travail enfin va. On est dans une société du travail perdant. Pour les travailleurs, pour les employeurs, pour tous les actifs.
Il ne faudra juste pas être le troisième homme. Quoi.
Non, exactement. Sur le régalien, on en parlera. Il faudra changer la Constitution. Et ensuite, sur ce que j'appelle l'immatériel, la fierté française. Vous pensez qu'on peut relever un pays sans lui redonner sa fierté. Or, depuis des décennies, on a cultivé, notamment ici à Paris, la repentance. C'est le cas de l'Algérie. On a dit, les Français, la France, elle est coupable de tous les crimes. Et on n'a pas appris aux jeunes Français d'aimer la France. Au contraire, c'était la repentance. L'histoire, c'était une histoire finalement coupable. Comment voulez-vous agréger à notre destin commun des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui demanderaient que cela? Et on leur dit, mais non, la France, elle est coupable, elle est détestable, ne l'aimez pas. Donc, ces éléments immatériels... Jaurès avait une très belle phrase. Vous allez comprendre ce que je veux dire sur les éléments immatériels. Jaurès disait, la patrie, c'est le seul bien de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, quand on n'a pas de bien matériel, on est attaché à notre culture, à notre mode de vie. Moi, je veux défendre notre mode de vie. Voilà.
Très bien. Juste, c'est fini, mais deux questions très rapides.
Ah, ça passait trop vite.
Une qualité d'Emmanuel Macron.
Une qualité d'Emmanuel Macron. Intelligent.
Un défaut.
Inconstant.
Merci Bruno Retailleau d'être passé par les GG, par les grandes gueules, candidat à l'élection présidentielle 2027.